On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Merci Estelle Schmitt, on se retrouve à midi pour un nouveau flash d'information.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Catherine Médicis, quand elle s'est mariée, a amené avec elle les haricots, elle a amené avec elle la moutarde, ses cuisiniers et plein d'autres grandes spécialités d'Italie, parce que forcément, c'est une dot, hein, c'est une manière d'amener quelque chose au pays.
C'est vraiment notre force et notre volonté de ramener tous ces produits de la terre et de les valoriser. Les poissons de Loire, de se rendre compte qu'en fait, des cendres, on ne peut pas en avoir toute l'année à la carte.
Certo.
Ah bon?
Certo, ça veut dire bien sûr.
Je sais très bien ce que ça veut dire. Ah oui, vous avez l'accent romain, j'avais reconnu.
Gracias.
Prego.
Prego tout.
Blaisois, blaisoise, bonjour. On va déguster. Dresse le couvert à Blois. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'auditorium de la bibliothèque de l'abbé Grégoire. Nous sommes dans cette belle ville de Blois, dans le Loir-et-Cher, à l'occasion des rendez-vous de l'histoire. La 22e édition de ce festival ou de ces journées se déroule à Blois depuis mercredi et jusqu'à ce soir. Et son thème est l'Italie, l'histoire, la culture et le patrimoine de ce pays. Sont abordés à travers des dizaines de rencontres, de tables rondes et de conférences. Vous le savez peut-être, mais On va déguster est amoureux de l'Italie, on vous l'a prouvé à plusieurs reprises. Et nous sommes très honorés de recevoir un historien italien de grande réputation, c'est Alberto Capatti. Buongiorno.
Buongiorno.
Alberto Capatti, professeur d'histoire de civilisation française à l'université de Pavie et grand spécialiste de l'histoire de l'alimentation. On va voir ça avec vous et on va tenter d'apporter quelques éléments de réponse à une question qui nous intéresse beaucoup. Comment la cuisine italienne a conquis la France depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui? On va s'intéresser aussi, évidemment, nous sommes à Blois, au terroir local avec l'un des porte-drapeaux de la gastronomie ligérienne, c'est Christophe Hay. Bonjour.
Bonjour à tous.
La maison d'à côté, à Montlivault, on est à 13 km de Blois, c'est votre restaurant gastronomique. Alors si on parle beaucoup de vous en ce moment, cher Christophe, c'est évidemment parce que vous avez décroché en février dernier votre deuxième étoile au Guide Michelin. Bravo.
C'est gentil, avec plaisir.
La troisième un jour, hein? Bon, non.
On va continuer à avancer, c'est surtout ça. Ouais.
Exactement, ne nous précipitons pas, mais on parle aussi beaucoup de vous parce que votre démarche est certainement l'une des plus vertueuses et éco-responsables de France. On va le voir avec vous, vous êtes vraiment enraciné dans votre environnement local de manière tout à fait intègre et spectaculaire. Avec nous également une productrice de la région, dont Christophe Hay, notre chef justement, nous a soufflé le nom à l'oreille. C'est Adèle Champ-d'Avoine, bonjour.
Bonjour à tous.
La ferme du Couëtron,
Couëtron.
Couëtron, c'est difficile à prononcer. Hein.
C'est comment, pas breton pour.
Comment ça s'appelle?
C-O-U-E-T-R-O-N.
Couëtron.
Couëtron.
Et c'est à Arville.
Voilà, dans le Perche.
Nous sommes exactement, donc par rapport à ici, ça fait une petite trotte quand même.
Ça fait un petit bout, oui.
C'est votre ferme où vous produisez des légumes et des volailles, mais pas n'importe quel légume, pas n'importe quelle volaille, des semences et des races anciennes très emblématiques de la région. Vous allez nous les faire découvrir dans un instant. Ils font partie du voyage à Blois, ce sont mes chroniqueurs. Tout d'abord, notre libraire gourmande Déborah Dupont et notre chroniqueur vin Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour à tous.
Déborah.
Alors nous, on va aller regarder du côté de Catherine de Médicis avec des recettes peut-être un peu fantasmées.
C'est cela. Et peut-être des recettes qui soigneraient aussi vos cordes vocales.
J'espère.
Oh là là, elle a attrapé la crève, la pauvre Déborah. Jérôme.
J'étais à l'affût et j'ai trouvé.
J'étais à l'affût et j'ai trouvé. Quel indice, j'étais à l'affût et j'ai trouvé. À l'affût de quoi? De bon vin?
Comme toujours.
Oui.
Et il y aurait peut-être bien le nom du domaine qui serait dans le titre de ma chronique.
Intéressant, et c'est bientôt dans nos verres. Grâce à vous, de l'Italie au Val-de-Loire, du passé au présent, on va déguster. Dresse le couvert à Blois.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Nous avons la chance d'être à Blois, de surcroît devant un public extrêmement chaleureux. Merci beaucoup à tous, ça nous touche beaucoup. Et Blois, on aime cette ville évidemment, son château royal, sa cathédrale Saint-Louis, son centre-ville pavé, ses bords de Loire, à Blois, la gastronomie, c'est d'abord évidemment celle de l'œil. Mais, il y a des choses à manger à Blois. Et je vous propose un petit tour de table pour vous faire découvrir nos coups de cœur gourmands. Voilà, chacun a une petite chose, une adresse, un produit à vous proposer. Alberto Capati, vous êtes à Blois depuis quelques jours. Est-ce que vous auriez par hasard une adresse ou quelque chose à nous conseiller?
Mais c'est-à-dire que j'ai mangé de l'autre côté de la rue, en face de l'audir...
de l'hôtel
de, non, de l'auditorium chez Philippe. Et moi, lorsque j'arrive en France, il y a une chose qui me fascine, c'est le plateau de fromage.
Ah.
Alors, le plateau de fromage, je commence par la dernière partie.
Bien sûr.
Mais c'est là où je vais me régaler.
Voilà, les fromages français, même si l'Italie, on le sait, est aussi un grand pays de fromage. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire en France, et notamment dans cette fabuleuse région où les spécialités à base de lait de chèvre sont légion. Merci beaucoup, Alberto. Adèle Chandavoine, justement, en parlant de fromage, vous allez faire plaisir à Alberto Capati.
Oui, tout à fait. Moi, je recommande le fromage de la ferme du U-Home. Donc, ça se trouve à Saint-Luban-Vergonois.
Qui connaît et... Ah, il y a des mains qui se lèvent.
Voilà, donc c'est Laurence et Franck voilà, qui ont une soixantaine de chèvres, toutes élevées à l'herbe.
Oui.
Et qui vendent tous leurs produits en direct. Je pense que c'est excellent comme fromage. C'est sûr, c'est excellent.
Fromage de chèvre au lait cru, fromage fermier évidemment. Je crois qu'on les trouve aussi au marché de Villebarou.
Voilà, c'est ça, ils sont au marché de Villebarou. Et là, en ce moment, au rendez-vous de l'histoire, ils ont un petit chalet.
En plus.
Donc vous pouvez aller déguster.
Eh bien, allons se précipiter sur ces fromages de chèvre. On va essayer d'en trouver un ou deux pour Alberto Capati, qui ne repartent pas les mains vides. Christophe, alors, vous avez une relation très complice avec un de vos très nombreux artisans de bouche.
C'était dur à choisir, mais en tous les cas, j'ai mon comparse depuis le début, et c'est Sylvain Arnoux. Sylvain Arnoux, c'est mon pêcheur sur la Loire, c'est un fou. C'est quelqu'un qui est capable de sortir avec une toute petite barque en ce moment et d'aller chercher des ablettes, et il fait des rillettes. Donc il fait des rillettes à base de ces poissons de Loire, et en tous les cas, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il a aussi un petit chalet, je crois, et il s'appelle Arnoux Pêcheur de Loire.
Sylvain Arnoux, l'un des derniers pêcheurs sur la Loire, qui pratique en plus une pêche tout à fait durable, puisqu'elle est ciblée, très sélective. Qu'est-ce qu'on trouve en un mot dans ces filets?
À nous, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on valorise toutes les espèces. Hein. Donc, ablette, gardon, en ce moment, on fait du rotangle. Le rotangle, c'est un poisson qu'on trouve nulle part. Et c'est une chair blanche qui est magnifique, vraiment. Hein.
Et plus étonnant, on trouve également des espèces qu'on a plus l'habitude de voir dans le milieu marin, mais qui remontent la Loire comme le mulet.
C'est ça, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a aussi les poissons migrateurs, donc alose, mulet, lamproie. Voilà, c'est des poissons qui viennent surtout au printemps. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire tourner les espèces grâce à eux. Ouais.
Donc, dans votre restaurant, finalement, vous cuisinez des espèces de la mer, mais à condition qu'elles aient remonté dans votre terroir.
C'est ça, exactement, à condition qu'on les ait pêchées à Montlivaud.
À Montlivaud, avec Sylvain Arnoux, votre pêcheur. On va goûter vos sériettes?
Avec grand plaisir.
Eh bien écoutez, on va même essayer de se les tartiner. Alors nous, on a aussi dans l'équipe dont on va déguster un petit coup de cœur à vous transmettre, même si on vient de Paris, donc on va être assez humble. Hein. Mais en tout cas, on s'est attablé ensemble dans un petit bistrot charmant, ouvert depuis une grosse année. Quai de la Saussaye face à la Loire, c'est Anna M. Petit restaurant de Olivier Igouf et Anna Maria, qui est originaire du Salvador. Alors, la petite histoire, c'est un ancien bar PMU transformé en table de marché avec une cuisine simple, une ardoise, avec quelques propositions, peu, ce qui est d'ailleurs assez rassurant, et preuve, c'est comme ça qu'on arrive dans le thème du jour, preuve que l'Italie est partout et pas seulement dans les restaurants ouverts par des Italiens. On s'est régalé de lasagne aux légumes et au pesto, pesto à la genovese, le vrai, avec le basilic, les pignons, le parmesan, l'huile d'olive, l'ail, etc. On s'est régalé d'une délicieuse planche de speck qui venait des Dolomites, d'aubergines confites au bœuf, tout ça pour un ticket moyen d'une vingtaine d'euros par personne. Et vous savez quoi? Même notre ronchon de Jérôme Gagnès, qui a toujours quelque chose à redire, a beaucoup aimé cette adresse.
Oui, c'était très bien. Et notamment un tartare coupé au couteau. Alors moi, ça me fait toujours un peu peur parce que c'est souvent un peu trop gros. C'était très bien coupé, c'était très bien assaisonné. Il y avait des oignons qui étaient en grosses sections. Il y avait de la mâche, c'était absolument délicieux. Et j'ajoute une carte des vins courte, très efficace, très ligérienne, avec plein de très bons vignerons du coin. Tessier, Puzla, enfin bref, tout un tas de gens qui font des très bons vins. Et donc voilà, on peut boire la bonne Loire et bien se restaurer. Très
Anna M, à Blois, petit bistrot modeste mais extrêmement sympathique. Déborah Dupont, allez, on s'éloigne un peu de Blois avec vous.
On s'éloigne un peu, et puis moi surtout j'ai une question pour les amateurs de gibier. Vous êtes plutôt sénateur couteau ou Antonin Carême ?
Oula, sénateur couteau ou Antonin Carême, il s'agirait d'un petit débat de style autour du lièvre à la royale ?
Exactement, puisque la saison a démarré, et ce que je peux vous conseiller aux amateurs, c'est de réserver leur week-end du 30 novembre 1er décembre pour aller au Grand Hôtel du Lion d'Or à Romorantin, donc pas très loin, une quarantaine de kilomètres, puisque le chef Didier Clément prévoit un week-end spécial, en fait, menu accord mets et vins autour du lièvre à la royale.
Waouh, lièvre à la royale. Alors, sénateur couteau, on est dans la version un peu viande très confite et effilochée.
Effilochée, ouais.
Et puis Carême, on est dans la version un peu ballotine, hein.
Roulée ballotine avec foie gras.
Avec le foie gras, le médaillon de foie gras au milieu. On peut résumer un peu les choses comme cela. Merci beaucoup, Déborah, tous nos coups de cœur, nos recettes. Le podcast de l'émission sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. La France et l'Italie s'aiment et s'aiment notamment à table. C'est ce qu'on va voir avec notre invité historien dans un instant, Alberto Capatti, juste après une pause musicale qui résume bien justement cette passion franco-italienne. Naïf, rebaptisé depuis Dolce en 2019, chante un titre très très sensuel. Vous allez voir, ça s'appelle Goûte-moi. Buon appetito sur France Inter.
Goûte-moi et goûte l'amour qui vient de moi. Épice orientale, doux amer condiment spécial, un petit goût de rital. Jour après jour, l'amour devient doux, comme une pomme mûre qui t'attire et t'invite afin de l'accueillir. Mange-la avec désir. Que gusto sei, tu restes ici. Les fleurs, la tarte maison et les petits bonbons. Mais jour après jour, l'amour tombe. Mais quelque chose peut renaître des ruines du cœur. Tout ça aura peut-être une nouvelle saveur. Que gusto sei, tu restes ici. J'ai un doute, un Italien comme moi ne comprend pas pourquoi tu aimes les pâtes trop cuites. Que gusto sei, tu restes ici.
On va déguster, dresse le couvert à Blois à l'occasion des 22e rendez-vous de l'histoire. Merci beaucoup pour votre accueil, cher public. Et cette question qu'on se pose en très bonne compagnie avec l'historien italien Alberto Capatti, qu'est-ce que la cuisine française doit à l'Italie? Alors, beaucoup de choses, on s'en doute, mais on a besoin de clarifier avec vous certains points. À l'occasion de ces rendez-vous de l'histoire, Alberto Capatti, vous avez participé à plusieurs conférences sur l'histoire de la cuisine italienne, mais également sur sa conquête du monde entier, et notamment la France. Vous avez notamment débattu avec la docteure en anthropologie Sylvie Sanchez. Vous avez débattu autour de l'impérialisme d'un totem culinaire très italien qui a beaucoup de succès en France. Nous en sommes, attention, les deuxièmes consommateurs mondiaux, juste derrière les États-Unis et devant les Italiens. Près de 10 kilos par an et par habitant. Je veux parler de la...
pizza.
La pizza.
La pizza est une sorte de animal qui se transforme continuellement.
Qui mute.
Et qui mute d'une façon imprévisible. Ce qui arrive, c'est une histoire tout à fait nouvelle, c'est que cette cuisine italienne a un succès progressivement à partir des années 50. Par exemple, aux États-Unis, à partir de 53, Pizza Hut, que vous trouvez sur toutes les autoroutes américaines, a un grand succès. Et voilà qu'aujourd'hui, je vois la Scala, j'ai vu un nombre incroyable de pizzerias ici à Blois, avec des noms bizarres aussi, parce que c'est des noms qui ne renvoient pas nécessairement à l'origine napolitaine de la pizza elle-même, parce que c'est une nouvelle histoire.
Donc en voyageant à travers notamment les flux migratoires, Alberto Capati, venons-en à une question cruciale. Vous avez signé de nombreux livres dont plusieurs sont des références. J'en tiens à la main, La cuisine italienne, histoire d'une culture, que vous avez co-signé avec un autre historien de grande réputation, c'est Massimo Montanari. Et vous interrogez une thèse historique, un discours officiel, une espèce de mythologie très répandue en France et en Italie, selon laquelle ce serait d'Italie que nous serait parvenu, à partir de la Renaissance, beaucoup de techniques, de produits culinaires, qu'en quelque sorte, le patrimoine français culinaire devrait pratiquement tout à l'Italie, et notamment la fourchette, les artichauts, les macarons, la pâte à choux, le melon, le sorbet, et la responsabilité historique en reviendrait à Catherine de Médicis. Alors évidemment, à Blois, on la connaît forcément. Elle y est décédée en 1589 au Château Royal. Elle a été mariée, je le rappelle, en 1533 à Henri de Valois, duc d'Orléans, devenu roi de France en 1547. Et elle serait venue, évidemment, avec ses brigades, ses pâtissiers, ses cuisiniers et toutes les spécialités que j'ai citées. Mais elle ne vous plaît pas beaucoup, cette thèse.
Non, cette thèse a une documentation tout à fait insuffisante, et c'est ça le problème. Et d'autre côté, les documents, je vous en cite un pour vous amuser, c'était une reine très gourmande, d'après les ambassadeurs vénitiens, qui était évidemment en France et à la cour, et qui voyait la reine, comment elle mangeait, comment elle se gavait. Et se gavait de quoi? Vous avez cité les artichauts.
Oui.
Et j'ajouterai les crêtes, parce qu'un ambassadeur dit, mais elle a fait une consommation d'artichauts et de crêtes absolument incroyable.
Vous parlez de crêtes?
De crêtes de coq et de crêtes de... Non, de crêtes de coq et de crêtes de poule. Et... c'est une histoire qui n'a pas de documentation, sauf très indirecte, et quand le roi ou la reine avait des comportements qui étaient des comportements un peu désobligeants par rapport au festin, par rapport au rite qui devait représenter la royauté à table.
Si on la surnommait la reine à la fourchette, c'est à ce moment-là injustifié. La fourchette aurait bien été inventée en Italie.
Elle
s'est diffusée en France.
Elle est inventée en Italie. Les témoignages italiens sont après 1560. Mm-hmm. Donc, elle n'est pas arrivée avec la fourchette. Elle est arrivée avec ses doigts.
Une question aussi concernant les légumes. La passion française pour les légumes qui intervient notamment au grand siècle, au XVIIe siècle, avec ce qui se passe à Versailles, dans les potagers du Roi Soleil. Cette passion pour le légume dans sa nature, pour tourner le dos notamment aux saveurs très épicées, très sucrées, très acides du Moyen-Âge. Tout d'un coup, on aime le petit pois croquant cuit dans sa cosse. On aime l'artichaut, l'asperge, les herbes fraîches. On peut pas s'empêcher d'y voir une italianisation du goût français?
Peut-être. Vous avez cité le Roi Soleil. Versailles était une merveille. C'était un potager qui devait sans doute à l'attention que à l'agriculture la France apportait dans sa totalité.
Eh bien, la mythologie de Catherine de Médicis fait même l'objet de livres. Elle nourrit aussi, évidemment, la littérature gourmande, et c'est ce que l'on voit avec Déborah Dupont.
France Inter. On va déguster.
Le cahier de recettes de Catherine de Médicis et autres dames illustres du château de Chenonceau, c'est chez Albin Michel.
Des recettes nourries par les imaginaires auxquels le château de Chenonceau nous renvoie, l'Italie bien évidemment, la Renaissance aussi, et qui permettent de découvrir un héritage culinaire réel ou fantasmé lié à Catherine de Médicis. On y retrouve des beignets d'artichaut, du brocoli en clafoutis, des produits de la Loire avec le brochet au beurre blanc, des bouchées de massepain en pignon, et encore des beignets de vin à la cannelle, donc les fameux pets de nonne. Mais j'ai choisi une tourte aux herbes, car les herbes, en fait, moi, m'évoquent les jardins qu'on trouve sur les châteaux de toute la région. Et donc, cette tourte aux herbes, en fait, est très, très simple à réaliser. Il suffit d'avoir 500 g d'oseille, un demi-bouquet de menthe, un demi-bouquet d'aneth, un demi-bouquet de cerfeuil, un oignon.
Elles sont d'ici, hein, votre tourte. Je vous le dis, ça fait très envie, je vais me jeter dessus dans un instant.
Alors qu'elle a quand même voyagé en vélo, puis train pour venir jusqu'à Blois.
Bravo.
Ça a quand même été toute une aventure.
C'est une tourte de compétition.
Et elle a encore bonne mine, hein.
Donc en fait, on réalise une pâte à base de farine, d'eau, d'huile d'olive, qui va être une pâte assez souple, même après un passage au froid. On l'abaisse donc en deux disques, et ensuite, tout simplement, on va faire revenir en fait l'oignon avec les herbes émincées, avec l'oseille émincée dans une poêle. On ajoute la ricotte, les œufs. On verse ça sur la première abaisse dans un moule. On ferme en fait avec la deuxième abaisse de pâte. 35 minutes au four et ça donne un aspect en fait très tourte, mais d'ailleurs assez italien. Avec, enfin, ça fait penser aux tourtes aux épinards. Ça fait penser,
bien sûr,
à plein de choses.
Ça pourrait même faire penser à cette tourte de blette,
du sud,
du côté de Nice. Hein, Alberto Capatti, ville également bien entendu assez italienne dans sa cuisine quand même. Mais ça pour des raisons d'échange et de proximité géographique.
Absolument, absolument.
Est-ce que ces herbes étaient des herbes typiques de Catherine de Médicis ?
Ça, c'est difficile.
C'est
difficile à dire. De toute façon, les tourtes étaient présentes dans tout le banquet. Elles étaient présentes découpées comme vous l'avez découpé pour nous aujourd'hui. Et faisait partie de cette sorte de capacité en même temps d'exhiber un objet culinaire tout entier et extrêmement savoureux, savoureux à la vue, savoureux d'abord à ce qu'on pouvait apprécier éventuellement après, et donc font partie de cette culture.
Absolument, il y a un goût de menthe, hein, extraordinaire. La menthe n'est quand même pas très française dans la cuisine, peut-être un peu en sucré, mais pas autant en tout cas qu'en Italie ou éventuellement un peu en Angleterre avec la mint sauce. Mais c'est vrai que la menthe, le goût mentholé n'est pas très français. Christophe, hey.
Non, après on l'utilise de plus en plus parce que du coup, voilà, c'est des plantes qui se font toutes seules au jardin, donc c'est facile, quoi. Mais c'est vrai que historiquement, je pense qu'on utilisait beaucoup plus des herbes sauvages que de la menthe. Ouais. Et du lamier aussi. Le lamier, c'est vraiment la même famille que l'ortie, et ça, c'est, on en faisait des tourtes justement, et je pense qu'il y en avait à l'époque. Ouais.
Elle est délicieuse, votre tourte, vraiment, Déborah Dupont. La recette sur franceinter.fr à la page On va déguster. Vous nous rappelez les références de ce livre ?
Donc le cahier de recettes de Catherine de Médicis et autres dames illustres du château de Chenonceau chez Albin Michel.
Donc on ne garantit rien, on est bien d'accord sur la véracité historique des recettes proposées.
Et c'est très bien expliqué dès l'introduction. En fait, ils n'ont pas la prétention d'avoir fait un ouvrage historique. Ils le disent, c'est fantasmé, c'est inspiré d'eux. Ça essaye de coller le plus possible à la réalité avec un très beau travail iconographique, mais ça n'a pas la prétention d'être un ouvrage historique.
Voilà, c'est une libre interprétation culinaire d'une mythologie historique. Merci beaucoup, Déborah Dupont. Il y a une question, je crois, dans le public pour Alberto Capatti. Bonjour, madame.
Bonjour.
Vous vous prénommez comment ?
Je m'appelle Fiona. Je suis moi-même historienne, mais pas du tout dans le domaine culinaire. Je m'intéresse à l'impact de la découverte, enfin de la connaissance par les Européens de certains lointains, notamment l'Amérique. Et justement, j'avais une question sur l'aspect culinaire. Il y a un produit, il me semble, qui est aujourd'hui un des premiers produits auxquels on pense quand on pense à la cuisine italienne. La tomate, évidemment. Et je me demandais à partir de quel moment les Italiens l'ont adoptée et on en fait ce qui nous semble être aujourd'hui l'ingrédient numéro un de la cuisine italienne.
En Italie, il y a une date très précise, c'est 1690. C'est un cuisinier de la cour d'Espagne à Naples. Ce cuisinier s'appelait Latini et a donné une première recette de tomate à l'espagnol. C'est la première recette qui apparaît dans les livres de cuisine et qui après est suivie d'une grande appréciation. En même temps, il faudrait faire le raisonnement contraire, c'est-à-dire que la tomate arrive en Espagne au début du XVIe siècle et qu'elle doit attendre 1690 pour être appréciée hors de ce qui était des horticulteurs savants ou des personnes qui s'occupaient d'une sorte de jardin d'études. Et la tomate, après, a un succès, qui est un succès même catastrophique, dans le sens où il y a un cuisinier célèbre italien du 19e, 20e siècle, qui disait que la tomate, c'était comme un prêtre, qu'on appelait tomate dans son pays, dans son village, parce qu'il se mêlait de tout. Et c'était justement Don Tomate.
Ah, les Français ont connu la tomate quelques siècles après les Italiens. Hein.
Ils l'ont connue après.
Avec une étape en Provence.
En goûtant, effectivement, la tomate a eu le même effet dans toutes les cuisines, même les cuisines françaises, de constituer une sauce de base très bas prix, très facile à préparer, facile à conserver, à tel point qu'aujourd'hui, la tomate, le concentré de tomate est essentiellement chinois.
Bien sûr. Et on s'est longtemps méfié en France aussi de cette solanacée qu'on considérait comme toxique. Hein.
Comme toxique.
Est-ce que Christophe Hay, qui est un digne représentant de la gastronomie française dans tout ce qu'elle a de précis, d'équilibré, de technique, de très ancré dans un terroir. Est-ce que l'Italie, ça vous parle? Vous vous sentez loin, proche de ce pays, culinairement parlant?
Non, je pense que de toute façon, il faut toujours être inspiré par les pays qui nous entourent et notamment cette cuisine du Sud, hein, puisque voilà, on parlait des tomates, mais il y a aussi toutes les aubergines, les poivrons, toutes ces choses qui sont très intéressantes et qui ont très souvent un goût assez prononcé. Donc, on aime aussi en avoir au jardin, bien entendu.
Ah oui, parce que vous avez un jardin en permaculture qui fait quand même 3000 mètres carrés. Ça veut dire que vous êtes dans une culture totalement naturelle avec combien de plantes potagères, de semences?
Je pense très honnêtement que si on fait le tour, on en a un peu plus de 100, 120. Voilà. C'est surtout pour se faire plaisir. Et puis, au fur et à mesure, on les découvre, en fait, ces espèces. Et puis, on permet de les découvrir à tous les convives qui viennent nous voir aussi.
C'est peut-être aussi ça, l'italianité de votre cuisine, c'est le fait d'aller puiser ses ressources directement dans un jardin et d'avoir un accent végétal très fort dans votre répertoire.
Je pense tout à fait. En fait, on avait avant beaucoup de protéines et puis ensuite on pensait la garniture. Aujourd'hui, on a une consommation qui est complètement différente et on va penser la garniture et ensuite apporter de la protéine. Et ça, pour le coup, ben voilà, on va énormément travailler sur le végétal et le végétal, on va essayer de le valoriser, le développer de plus en plus. Ouais.
Dans un instant, on va pénétrer dans votre univers gastronomique passionnant. On va essayer d'en comprendre les ressorts ainsi que quelques recettes. Il y a déjà des recettes qui circulent autour d'un produit justement élevé par votre voisine, Adèle Champ d'Avoine. Alors on peut dire que c'est une volaille. On va pas révéler son identité parce que vous allez nous la faire découvrir. Mais c'est une histoire en tout cas passionnante comme on les aime dans l'émission On va déguster.
Anything I do,
I want you here.
You don't know what it's like to be around you. I still got my fear.
It's a way you say yes when I ask you to marry me. As much as I want you to tell me I'm over this threshold.
still always you. Every morning I think of no matter what, how I want you.
On va déguster à Blois. À l'occasion d'un formidable rendez-vous, 22e édition, les rendez-vous de l'histoire consacrés cette année à l'Italie, ce qui explique la présence sur notre plateau de l'historien Alberto Capati. C'était pour le versant italien, mais Alberto, vous restez avec nous, car je sais que vous êtes non seulement épris de notre langue, mais également de notre cuisine, et pas seulement de nos fromages. J'ai vu que vous mangiez pas mal de choses pendant le disque quand même. Et notamment ce plat délicieux que nous a préparé notre chef Christophe. Et bien justement, versant ligérien avec vous Christophe, il y a un petit village à 11 km d'ici, Montlivaud, avec une belle église, l'église Saint-Pierre. Et au pied de cette église, il y a la maison d'à côté, c'est votre maison de cuisine. Ça vous va comme définition, une maison de cuisine?
C'est magnifique et c'est très très beau, vraiment.
42 ans.
C'est ça.
2 étoiles Michelin, c'était un beau cadeau que le guide Michelin vous a fait mériter, évidemment, en février dernier.
C'est un rêve d'enfant aussi, hein, et puis c'est quelque chose qui vient naturellement et où on n'a pas décidé les choses à l'avance, quoi.
On a eu la chance de s'attabler dans votre restaurant hier avec l'équipe dont on va déguster. On peut déjà dire, si vous voulez mon avis, que vous pratiquez une cuisine ciselée, contemporaine, affûtée et en même temps très concrète, voire même érudite. Vous faites des clins d'œil à des recettes historiques emblématiques justement du Val-de-Loire notamment. Quand je dis concrète, c'est que vous êtes aussi très précis sur les jus, vous avez des équilibres redoutables. Vous faites une cuisine donc contemporaine mais avec des bases classiques, vous êtes d'accord?
C'est ça, tout à fait. En fait, j'ai vraiment démarré avec un chef qui s'appelle Eric Rettler, hein, qui est mon père spirituel, qui était le chef étoilé de Blois, hein, avec le Rendez-vous des pêcheurs. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de démarrer avec quelqu'un qui s'appelle Paul Bocuse.
Ah bah oui.
Monsieur Paul.
Dans le genre cuisine classique.
Voilà. Et ça, c'est pour moi une des plus belles rencontres que j'ai pu faire dans ma vie. C'est quelqu'un qui m'a appris énormément et qui m'a apporté aussi énormément. Et aujourd'hui, ma cuisine, ben voilà, c'est des jus, c'est des cuissons, c'est du végétal parce que j'adore ça et qu'on le développe au fur et à mesure. Et ces recettes historiques, elles sont pour moi hyper importantes. Donc il y a bien sûr cette carpe à la Chambord.
On va s'y arrêter un petit moment parce qu'on l'a dégusté et on a beaucoup beaucoup aimé, surtout mon voisin de droite, hein, Jérôme Gagnès. Tu t'es régalé, hein.
Ah, c'était remarquable.
Preuve que la cuisine, c'est aussi de l'histoire. Évidemment, cette carpe à la Chambord. Alors, déjà, ton ressenti, Jérôme?
Il y a beaucoup de choses à dire. On peut retenir une chose, c'était un jus d'une très, très grande justesse. Cette sauce au vin rouge était admirablement réalisée parce que vous avez su garder tout le caractère fruité, frais et élégant d'un vin de Cheverny dans une sauce, et ça c'est remarquable.
Définition d'une carpe à la Chambord, parce qu'il est évidemment question de vin rouge, mais pas seulement.
Exactement, en fait c'était, on est allé chercher chaque ingrédient qui rentrait dans cette recette, donc les champignons, les écrevisses, le lard paysan, la truffe, et bien entendu cette carpe à l'époque elle était farcie entière avec chacun des éléments. On servait le vin rouge comme ça tout autour du plat, disposait les truffes entières et ça partait comme ça au four. Hein. Donc on a eu des croquis, on a eu des choses comme ça. Et puis très vite, nous, on a voulu se l'approprier. Sylvain me poussait vraiment pour faire de la carpe. Je suis pêcheur de carpe et je voulais surtout pas leur faire du mal parce que c'est un poisson que j'adore. Et il m'a dit, mais vas-y, dans la Loire, tu verras, la carpe, elle est magnifique. Il y en a beaucoup et en plus, elle évolue sur le sable et les galets. Donc on n'a pas du tout ce goût de terre ou de vase comme on peut avoir dans les étangs. Et ça m'a vraiment, dès que j'ai commencé à en préparer une, c'est ce que j'ai retenu. En fait, cette chair est magnifique. Et ensuite, ben voilà, on l'a modernisé cette recette, on lui a donné du cœur, de l'amour, de la gourmandise, et on est allé chercher justement cette sauce au vin rouge où on ne veut surtout pas d'oxydation du vin, hein, comme les sauces civées ou les choses comme ça. On fait des réductions séparées en fait, hein, donc on réduit le vin rouge tout doucement d'un côté, on prépare le fumé légèrement crémé de l'autre, et au tout dernier moment, on associe les deux. Et là, vous allez avoir une concentration des fruits rouges un tout petit peu épicés, donc typique du cheverny. Et ça va venir balancer justement sur cette carpe, hein, qui a une texture vraiment particulière.
Et une superbe couleur, vraiment lit de vin éclatante, avec cette fraîcheur, évidemment, des arômes de fruits rouges. Elle était tout à fait surprenante, cette sauce, et quand même beaucoup sur la fraîcheur et l'acidité.
C'est ça, exactement. Et en plus, si on regarde juste les menus d'époque, en fait, hein, on était vraiment sur des cuisines très, très localisées, hein, puisqu'on n'allait pas s'embêter à aller chercher des poissons de mer ou des choses comme ça. Et on travaillait beaucoup avec tous les produits qui étaient autour du château, en fait.
Comment remettre au goût du jour un poisson qui n'avait pas très bonne réputation? Les Alsaciens l'apprécient encore, hein, la carpe, mais c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est un peu un poisson qu'on considère souvent comme ayant des arrière-goûts un peu vaseux.
Moi aujourd'hui, en tous les cas, j'ai beaucoup plus de fierté à travailler une carpe que travailler un turbo ou une sole, quoi.
Bravo. Que des poissons d'eau douce et surtout des poissons de la Loire, évidemment, dans vos assiettes, car la singularité et l'audace de votre cuisine, cher Christophe, c'est vraiment d'être ancré dans le terroir ligérien, de cultiver vous-même un potager, on l'a dit. Alors très souvent, cuisiner le terroir local, c'est un peu galvaudé, beaucoup de chefs le revendiquent, chez vous, il y a une démarche d'une intégrité incroyable. D'ailleurs, vous n'aimez pas trop le mot locavore. Quand je vous ai dit, oh là là, vous faites une cuisine locavore, traduisez, orienté sur les produits locaux, vous dites ce mot, il me plaît pas trop.
C'est ça, en fait, moi je fais vraiment une cuisine ancrée dans son terroir et voilà, je suis issu d'une famille agricole, hein, je suis né à Vendôme, on a une ferme qui est à Saint-Jean-de-Froidmantel, avec la famille Martelière, c'est vraiment, voilà, c'est la cinquième génération du côté de ma maman. Et quand je suis revenu dans cette région, je voulais absolument valoriser justement nos petits producteurs locaux, c'était pour moi hyper important. J'ai connu mes grands-parents dans les périodes de quotas laitiers qui jetaient le lait à l'égout dans les années 80, qui souffraient. Et en tous les cas, bah voilà, moi j'avais vraiment envie de les aider, d'être un peu ambassadeur de leur travail. Et je me suis épaulé justement de tous ces petits producteurs autour de moi.
Avant de passer à votre productrice préférée, on peut le dire, puisque c'est vous qui nous avez soufflé son nom à l'oreille, Adèle Champ d'Avoine. Quelques produits comme ça, on fait un petit inventaire à l'après-verre. Le safran
avec Alain Gaillard, donc safran de Sologne à Huisseau-sur-Cosson.
Bravo. Les écrevisses à pâte grêle de Loire.
Exactement. On les pêche en fait dans les bras morts avec des engins, hein, donc ils rentrent dedans. Et ça, c'est vraiment l'écrevisse historique, quoi.
Et vous aimez la femme qui les pêche? Enfin, vous appréciez son travail, pardon. Je voudrais pas semer la zizanie avec votre femme qui travaille au restaurant, hein, mais vous appréciez son travail, c'est Marie-Anne Mignot.
Exactement. En fait, on fait des choses avec eux et eux, ce sont des grands, grands passionnés de beaucoup, beaucoup de choses parce qu'ils ont aussi les truffières. Ils ont une collection d'agrumes chez eux qui est juste magnifique. C'est des gens, voilà. Et ils s'occupent également de mes ruches puisque du coup, ils sont trufficulteurs à la base. Apiculteurs, excusez-moi.
Apiculteurs.
Et trufficulteurs.
Fromage et faisselle au lait cru, vous nous en avez parlé hier.
Oui, parce que on a une ferme qui est juste à côté de chez nous qui s'appelle la ferme du Croc du Merle. Mm-hmm. Moi, ça me rappelle mon enfance. Je vais là-bas, j'ai les odeurs, j'ai des gens qui sont passionnés, qui ont tout fait pour s'en sortir et pour justement travailler un maximum de choses à la ferme. On a du beurre, du lait, de la crème, des œufs, des yaourts, du fromage blanc, de la faisselle. C'est divers et variés. Ils ont une petite épicerie du coup dans leur ferme et ils travaillent avec toutes les personnes qui sont autour.
Et puis enfin, vous avez racheté carrément, et ça c'est peut-être un clin d'œil à votre papa qui était boucher de métier, vous avez racheté un cheptel, alors d'une race qui n'est pas vraiment française, qui est plutôt une race japonaise, mais qui en tout cas s'épanouit dans un terroir très français.
C'est ça, exactement. En fait, j'ai acheté 27 têtes de bœuf Wagyu, tout simplement pour vous la proposer, la rendre accessible. C'est la viande la plus chère au monde, mais en tous les cas, voilà, moi je vais les élever en interne avec un ami d'enfance qui s'appelle Yvan Dersoir, qui est près d'Angers, donc au bord de l'Erdre, sur des prairies qui sont naturelles. Et en tous les cas, malheureusement, j'ai perdu mon papa trop tôt, mais s'il avait vu cette viande, il serait fier de moi. Ouais. Ouais.
Bravo, et c'est une viande que vous servez au restaurant, une viande avec beaucoup de goût, très persillée. Et vous en prenez soin, le bien-être animal est une valeur, c'est pas un vain mot chez vous, puisqu'on est à l'opposé évidemment d'un élevage intensif.
Tout à fait, là c'est vraiment un élevage 36 mois en prairie avec une finition au lin, donc ça veut dire qu'on va les chouchouter, ils vont être sur des litières toutes propre tous les jours. Et ils vont voilà être massés avec la musique dans les box. Et ça, c'est vraiment que ouais, c'est vraiment hyper important. C'est, en fait, ce qu'il faut, c'est que les animaux se sentent bien. Donc c'est pour eux un peu le spa, quoi.
Voilà, c'est ça, le spa pour vos 27 vaches de race japonaise Wagyu. Exactement. Absolument, qui s'épanouissent dans le terroir ligérien. On vous parlait d'une belle histoire de reconversion. On va parler dans un instant de la recette que vous nous avez préparée. Évidemment, Christophe, est, puisqu'elle est liée à notre troisième invité, une histoire de reconversion, de réenracinement. C'est votre histoire, Adèle Chandavoine. Vous n'avez pas toujours été dans cette ferme de Cointron à Harville.
Non, exactement. J'ai travaillé, enfin, j'ai fait mes études à Paris. J'ai travaillé à Paris pendant 10 ans. Mm-hmm. Et puis après, mon fils était très malade, certainement à cause de la pollution. Et donc en fait, je suis repartie chez papa, maman.
Parce que vous êtes originaire du coin.
Voilà, je suis originaire d'Harville. Retour aux sources, voilà.
Et je crois que Christophe a été assez déterminant dans votre reconversion.
Ça a fait partie des gens voilà, qui sont là pour nous soutenir et qui nous épaulent tous les jours. Donc oui, c'est très important des gens comme ça.
Il vous a aidé à vous installer. Alors, si je vous dis que vous êtes une fermière ou une paysanne, évidemment dans ma bouche, ces mots sont tout à fait nobles.
Non, j'aime bien paysanne, c'est bien. Ça claque bien.
Vous revendiquez évidemment une démarche tout à fait fermière avec des valeurs très fortes et notamment la défense d'un patrimoine qui a été menacé, qui a été oublié.
Et qui est encore sur une pente, sur un fil.
Originaire de la région, que vous chouchoutez de manière lente, très extensive.
Donc la dame noire, la Géline de Touraine.
Bah, la plus emblématique qu'utilise beaucoup votre voisin Christophe est la Géline de Touraine. Qui la connaissait dans le public, la Géline de Touraine? À une époque, elle a eu quand même très très bonne réputation sur les tables, notamment parisiennes, mais partout en France. Et pourtant, il reste très très peu de producteurs de cette fameuse Géline de Touraine.
On est uniquement deux. Je suis la seule en Loire-et-Cher. J'ai eu la passation de Michel Angier qui était à Gien-en-Sologne et qui est à la retraite. Donc j'ai repris le flambeau pour ne pas perdre. Et on a juste une seule éleveuse et reproductrice qui se trouve à Lusillé dans le 37. Sinon, il n'y a plus personne.
Ah oh là là, quel drame. Heureusement que vous êtes là justement pour la maintenir.
On espère, il faut continuer parce que c'est une race qui est vraiment en perdition totale. Et s'il n'y a pas des éleveurs pour essayer de la sauver, quoi, il n'y aura plus du tout de spécimens.
Pour ceux derrière leur poste de radio et dans le public qui ne la connaissent pas, cette fameuse volaille oubliée, on voudrait un portrait robot de la Géline de Touraine.
Alors en fait, la Géline, c'est une volaille qui est au plumage noir avec des reflets métalliques, qui a les pattes un peu gris ardoise en fait, et qui a des barbillons très rouges et qui se tient bien droite. Voilà, qui est, c'est une belle dame.
Et vous fournissez, Christophe.
Voilà.
C'est votre volaille, hein, Christophe.
C'est ça. En fait, voilà, j'ai démarré avec Michel Angier et arrivant à la retraite, je me suis permis d'appeler Adèle parce que tout simplement, c'est aussi la cousine d'une amie d'enfance. Ben voilà, on a démarré avec Adèle pour préserver cette souche. On va se battre parce que du coup, voilà, on parlait déjà d'aller racheter des paillettes à l'INRA de façon à pouvoir préserver la souche. Donc, c'est hyper important pour moi. Cette volaille, je l'ai toujours eue en mémoire, donc je veux absolument la préserver. Ouais.
Vous faites un plat tout à fait emblématique qui est présent en ce moment sur votre carte. Alors, on va pas entrer dans les détails de la recette, mais sachez que tous les auditeurs et vous-même pouvez la retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Il est question là aussi, ces petits mots désuets du répertoire français, de sauce poulette. Racontez-nous ce plat, modernisé bien sûr par vos soins.
Ouais, en fait, on l'a travaillé de deux façons. Hein. On a le suprême, donc on a poché et qui est le suprême est servi avec cette sauce poulette. Et à côté, on a la cuisse qui est confite dans un petit pain vapeur. Ouais.
Oh là là, définition d'une sauce poulette quand même.
Et la sauce poulette, c'est donc ce fond blanc de volaille qu'on fait réduire, crémer. Et puis à la fin, on y rajoute juste un petit point de jus de citron qui va bien. Et puis on la monte légèrement au beurre parce qu'il en faut aussi. Et croyez-moi, ça c'est une base de la cuisine française, mais qui est hyper importante parce qu'on a une sauce qui a vraiment du goût, quoi.
Jérôme Gagnès a beaucoup aimé au restaurant. Il réclamait encore un seau de sauce poulette.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le gras c'est la vie. On peut pas vivre sans crème fraîche. Et en l'occurrence, c'est un pur délice.
C'est ça. Il faut juste ne pas aller dans l'excès, mais en tous les cas, c'est toujours très bon.
Une volaille que vous mettez quand même un certain temps à élever, ce qui explique peut-être d'ailleurs une certaine fermeté, mais au bon sens du terme, avec un très bon goût.
Voilà, c'est ça. La plupart des gens sont habitués à des volailles qui ont 90 jours. Et moi, j'en ai le double. Voilà. Je commence à 150 jours et pour Christophe, elles ont plutôt presque 180 jours.
Oh là là, 180 jours d'élevage avec une finition bien précise.
Voilà. Nous, alors, on leur donne, donc, toutes nos céréales sont produites sur la ferme. Donc, moi, j'ai choisi d'être en circuit fermé pour ne dépendre que de moi-même. C'est déjà pas mal. Et voilà, on les chouchoute, on les finit au lait pour qu'elles soient tendres et qu'elles soient bien savoureuses.
Et qu'elles soient bien savoureuses. Et j'ai l'impression qu'elle a plu dans le public dont on va déguster. Bonjour madame.
Bonjour. Donc Mireille.
Bonjour Mireille.
Je suis blésoise. Venez tous à Montlivault. C'est ce que j'ai à dire. Le plus merveilleux chef, on l'a. Il est là. Ça, c'est sûr.
C'est gentil.
Et donc, je ne savais pas avant de manger. Je savais que j'allais manger de la volaille, mais je ne savais pas quoi exactement. Donc, c'est extrêmement tendre. Alors, je pense qu'en effet, c'est la qualité du produit. Ça, c'est sûr. Et sûrement aussi la cuisson, parce que c'était vraiment mais délicieux. Ça fond en bouche. Je me posais des questions aussi sur la sauce. J'ai la réponse, mais j'ai senti le beurre quand même. Ça, c'est sûr.
Oui, mais la fraîcheur du citron aussi.
Mais
dans la
vraiment,
sauce poulette.
Et c'est divin. Je le répète, venez tous à Montlivault.
Eh bien, bravo. Merci beaucoup. Je ne sais pas si madame est votre attachée de presse.
Non, mais ça fait plaisir et ça me touche. Et ça me donne un peu la chair de poule d'ailleurs, mais c'est super. Et... C'est ça.
De la chair de Géline, bien joué madame. Mais vous savez que Jérôme Gagnès a peut-être trouvé la bouteille idéale pour accompagner cette Géline de Touraine.
On va déguster sur France Inter.
C'est à vous Jérôme.
Alors, avant de commencer ma chronique, je voudrais faire une déclaration d'amour.
Oula. À qui ?
Une déclaration d'amour au terroir ligérien et au vin ligérien.
Oh, le faillot.
Non.
Il a raison.
Ça fait 20 ans que je goûte du vin. Je pense profondément et réellement que la Loire est un terroir absolument exceptionnel. Les vins exceptionnels, ils sont foison. Donc vraiment, je le dis à tous nos auditeurs, intéressez-vous aux vins de Loire. Nulle autre région en France, ni même à l'étranger, ne propose une telle diversité et une telle qualité à un tel prix.
Donc, ils vont être contents les bourguignons.
Bah, si on parle de prix, effectivement, on va rayer les bourguignons de la carte, déjà pour commencer. Donc voilà, ceci étant posé, j'étais à l'affût, disais-je tout à l'heure, et je me suis rappelé d'un vin que j'avais goûté dans un salon à Chartres, d'un vin qui m'avait beaucoup plu, de deux vins qui m'avaient beaucoup plu, et donc je me suis précipité sur mon téléphone pour appeler la vigneronne et m'assurer qu'il y en avait encore un petit peu de disponible pour pouvoir vous en parler. Et donc j'étais très heureux d'apprendre qu'il y en avait encore, je crois, d'après ce que m'a dit Isabelle, 4000 bouteilles de dispo. Donc jetez-vous dessus comme la misère sur le bac clergé, parce que c'est absolument magnifique. On parle d'un domaine qui est situé à 30 km d'ici au sud, sur le très beau, très et trop méconnu terroir de Sologne. Ce sont un peu schématiquement des sables sur des argiles. Et on parle d'un domaine qui s'appelle l'affût. Ce domaine, l'affût, il a été créé en février 2018 par Isabelle Pangot, qui, comme vous, Adèle, a fait un retour aux sources. Après avoir travaillé 10 ans dans des grandes entreprises viticoles, plutôt dans le sud de la France, elle a eu envie, avec la naissance de son fils, de revenir aux sources et de faire son propre vin, comme elle l'entend. Eh ben, elle a bien fait. Elle a bien fait parce que voilà un très beau projet, un projet qui est responsable, qui est éco-responsable. C'est un domaine qui est en cours de conversion en bio, les 14 hectares. Croyez-moi, c'est du boulot. Et surtout, il y a aussi un projet qui me plaît beaucoup, c'est que Isabelle a envie de replanter des cépages qui disparaissent, qui partent. Je sais pas comment dire sans être désagréable, l'incurie de certains vignerons vont disparaître parce que des appellations ne veulent pas avoir trop de cépages différents dans leur cahier des charges. Et c'est bien bien dommage parce que Menu Pinot, dit Hors-Bois dans le coin, Romorantin, Pinot de Nice disparaissent au fur et à mesure de la Touraine. Et c'est bien triste parce que ces cépages, c'est une richesse en pélographique, c'est une richesse de goût, de saveur qu'il est indispensable de préserver. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à une cuvée et c'est là où ça fait le lien avec votre plat, Christophe. On s'intéresse à une cuvée qui s'appelle la cuvée Instinctive.
Et je vous signale qu'on n'est pas servi. Hein. Donc je m'occupe du... Non, je m'en occupe.
Ah oui, je vous ai oublié. Cuvée Instinctive, c'est un vin qui est un assemblage de 92% de Sauvignon et de 8% de Chardonnay, je ne crois pas dire de bêtises. Et ce qui m'a plu dans ce vin, quand je l'ai goûté, c'est que c'était assez différent des Sauvignons de Touraine que j'ai l'occasion de déguster. Quand j'ai goûté le vin d'Isabelle, eh bien, j'ai goûté un vin qui était... finement aromatique, mais pas trop, mais surtout qui avait une belle bouche pulpeuse, qui avait une bouche qui était généreuse. Et j'ai trouvé là un vrai vin de gastronomie. Donc loin des Sauvignons de Touraine, un peu pipi-cha, pas très intéressant, dont on est souvent victime, à cause d'un négoce ligérien peu regardant sur la qualité. Et c'est bien triste. Alors que là, on a véritablement un vin qui est bien construit, qui révèle la finesse de ce terroir de sable sur argile, mais à la fois qui propose... une chair, une largeur, des beaux amers fins en finale, véritablement un très beau vin de gastronomie. ça fait évidemment écho à cette volaille qu'on a dégustée hier chez vous, parce que c'est un très bel accord.
C'est ça, on apporte la fraîcheur, on a ces notes d'agrumes qui sont très agréables également, qui reboostent un petit peu la sauce, là, c'est super. Ouais,
il y a de la richesse aromatique, sans être lourd, évidemment.
Non, justement, c'est vraiment un tour de force dans un millésime 2018, qui était un millésime généreux, solaire, et donc voilà un vin qui est un vin bâti pour la garde et pour la gastronomie. Quand je vous aurais dit que ce vin vaut la modique somme de 13 euros, compte tenu de rendements qui sont faibles, c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc précipitez-vous chez Isabelle Pango au domaine de l'affût. Vous y goûterez de très jolis vins. Le millésime qui vient donnera naissance à d'autres cuvées encore. Je vous invite vraiment à venir goûter chez elle.
Et je vous signale qu'elle est dans le public. On peut l'applaudir.
Oui,
bravo Isabelle. Des femmes dans les vignes, on en voit de plus en plus et c'est une heureuse nouvelle, malgré en plus les aléas climatiques. 14 hectares, je crois que vous êtes à deux. Sacré défi à relever.
Oui, c'est un gros défi. Moi, je ne me voyais pas faire autre chose en revenant sur mon terroir solognaud. Donc, gros défi, mais aussi grosse source d'épanouissement. Moi, j'aime les choses justement un peu crémeuses, un peu riches. Là, clairement, la sauce était complètement à mon goût sur la géline. Et vraiment, c'était pour ce genre de plat-là que j'ai pensé ce Sauvignon avec de la longe et du gras.
Et dire que ce vin n'est pas encore à la carte de la maison d'à côté de Christophe Hay.
Mais non, je la connaissais pas malheureusement, mais voilà, on a discuté longuement et on va partager encore des moments ensemble, c'est une certitude. Ouais.
Sachant que ces vins sont déjà dans de très belles tables étoilées, on peut peut-être citer l'Arpège de Alain Passard à Paris, ce n'est pas rien.
Tout à fait, oui.
Bravo, et ben merci beaucoup.
Merci.
Une dernière petite chose à ajouter, Jérôme.
Une dernière chose, c'est que encore une fois, il y a un Gamay qui malheureusement n'est plus disponible, mais il sera disponible dans le millésime 2019. C'est aussi ce que Isabelle fait, c'est de garder des vignes qui ont 124 ans. C'est des rendements qui sont ridicules. C'est un travail qui est très compliqué, mais ça donne un vin absolument admirable, un grand Gamay. Donc vraiment, vraiment, précipitez-vous au domaine de l'affût chez Isabelle Pango.
Très bien, merci beaucoup. On doit se quitter. Signalons juste que vous êtes aussi maraîchère, Adèle Chandavoine. Oui. Vous reviendrez pour nous parler de cette activité. Citons juste, pour faire plaisir évidemment à notre public, mais aussi pour mettre en avant cette formidable biodiversité, cette diversité potagère, deux légumes typiquement locaux que vous remettez au goût du jour.
Alors, on travaille le haricot barangeonnier, donc c'est typique en fait de la vallée du Cher, où en fait les maraîchers du coin l'utilisaient beaucoup.
Oui.
Donc c'est un haricot qui est de couleur marron avec des petites taches un peu plus foncées. Et le chou navet d'Aubigny, qui est un chou navet oublié aussi. Et je suis au stade expérimental et je travaille avec un ISA Group, qui est un centre de réinsertion de personnes en grande difficulté. Voilà, moi je produis, ils viennent les récolter, ils en font par exemple des macarons sucrés avec le haricot barangeonnier.
Le chou navet d'Aubigny, personne ne connaissait. Un navet assez allongé avec un collet vert. Vraiment, bravo. Comme quoi, on vous disait qu'elle avait beaucoup de détermination. Merci vraiment,
merci
Adèle Chandavoine. Merci beaucoup, Christophe Hay. Belle carrière dans la gastronomie française. La maison d'à côté à Montlivaud. C'est votre maison gastronomique. Signalons aussi que vous avez un bistrot.
Exactement.
À budget plus raisonnable. Et vous avez aussi un restaurant près d'Orléans.
Tout à fait, qui s'appelle La Table d'à côté, où on a été étoilé également cette année. Ouais.
Voilà, c'est quand même incroyable le destin de ce quarantenaire. Et signalons votre livre qui raconte votre démarche. Christophe Hay, une cuisine à fleur de Loire. J'aime beaucoup l'expression et c'est chez Flammarion.
Tout à fait, chez Flammarion et dernièrement en fait Les Incontournables, donc avec une très très belle maison qui s'appelle 180 degrés, qui a référencé des chefs, 10 chefs engagés pour une cuisine responsable.
10 chefs engagés dans la gastronomie responsable qui ont été sélectionnés effectivement dans ce hors-série Les Incontournables, un hors-série de la revue 180 degrés signé par Philippe Toinard et le photographe qui fait de très belles photos, Éric Fesneau. Laurent Thomas réalisait cette émission avec à la technique Marcos Daras, Mathieu Leroy et Jean-François Georges, Nadia Chougui à la préparation et Djoubaka pour la programmation musicale. Merci aussi beaucoup Alberto Capati.
Je vous remercie.
Et bon séjour en France. Merci au rendez-vous de l'histoire pour leur accueil. Merci beaucoup à vous, cher public. La semaine prochaine, retour dans nos studios parisiens pour une émission avec un invité exceptionnel à qui l'on doit le succès en ce moment de la cuisine du Levant et du Moyen-Orient, Houmous et compagnie, le chef superstar israélo-britannique Yotam Ottolenghi. Merci à tous, à dimanche prochain si vous avez encore faim.